Dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Et nous sommes très heureux de recevoir à nouveau Dominique Moisy. Bonjour Dominique Moisy. Je dis à nouveau parce que vous êtes venu il y a quelques mois, en octobre 2015, nous parler de la réédition de votre Géopolitique de l'émotion qui date de 2008, mais qui reparaît régulièrement puisqu'il a quand même eu un formidable succès traduit en 25 langues. Vous étiez venu nous parler non seulement de la réédition de ce livre, mais du monde tel qu'il allait, tel qu'il n'allait pas, à partir de votre recherche sur les émotions, une recherche sur les émotions du monde que vous poursuivez avec cette géopolitique des séries, Politique des séries qui paraît aux éditions Stock, mais il faut dire quand même, Dominique Moisy, que vous n'êtes pas un spécialiste des séries. Au départ, vous êtes un spécialiste de géopolitique, conseiller spécial aujourd'hui à l'IFRI, que vous avez contribué à fonder, professeur, visiting professor à Harvard, puis au King's College de Londres. Mais vous avez envie de nous parler des séries parce que vos enfants qui ont une trentaine d'années, vous le dites hein, très clairement dans l'ouvrage, vos enfants qui ont une trentaine d'années vous ont dit, mais enfin papa, tu ne peux pas parler aujourd'hui de géopolitique ou prétendre parler de géopolitique sans savoir ce qu'est Game of Thrones, ne serait-ce que Game of Thrones. Et vous voilà, Dominique Moisy, devant votre écran de télévision, à vous plonger dans les séries, à commencer par Game of Thrones, quand même un certain nombre de séries, de saisons que vous avez rattrapées à vitesse grand V, et puis ça vous a donné envie d'en regarder d'autres.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que mes enfants, effectivement, ont joué un rôle décisif, mais j'ai commencé à regarder des séries qui étaient plus immédiatement à ma portée. Donc j'ai vu Downton Abbey avec un très grand plaisir, j'ai vu House of Cards, et j'avais une réticence à l'égard de Game of Thrones, parce que vraiment c'était un univers qui m'était complètement étranger. Et j'ai cédé à la pression, parce que j'ai senti qu'il fallait le faire. Et au début, j'ai effectivement été un peu révulsé, même par le mélange de violence et de perversité. Et puis je suis devenu addictif. Comme on dit. Et combien de soirs, j'ai fait ce qu'on appelle du binge watching.
C'est-à-dire même appris les mots.
C'est-à-dire que j'ai vu Game of Thrones, les 5 saisons, en l'espace de 2 semaines, en Normandie. Chaque soir, je me disais, j'arrête, j'ai compris le procédé, la sidération. Et le lendemain matin, je disais à mon épouse, qui ne m'a pas suivi dans cette passion, écoute, non, il faut que je continue. Et je me donnais à moi-même des justifications intellectuelles. Il faut que je le fasse pour le sérieux de mon enquête. En fait, ça m'amusait, ça me fascinait énormément.
Oui, mais il y a les deux choses précisément. Il y a de la légèreté, de la fascination, de la sidération devant le côté addictif des séries, Dominique Moisy. Mais malgré tout, vous n'avez jamais oublié votre enquête. Votre enquête est très sérieuse. Votre enquête, c'est quand même la façon dont les séries nous parlent de géopolitique ou nous parlent même du monde à travers les émotions et l'aller-retour constant entre la fiction et la réalité. Là, c'est plus sérieux et c'est même moins rigolo, à vrai dire.
C'est-à-dire l'intuition qui m'a animé est qu'on ne pouvait pas comprendre aujourd'hui les émotions du monde sans avoir recours à ce nouveau média culturel que sont devenues les séries. Et que le temps du monde et le temps des séries se sont rencontrés autour du 11 septembre 2001. Les séries deviennent autre chose à la fin des années 90. Pour des raisons essentiellement financières. Elles commencent à avoir un grand succès, des grands budgets, les meilleurs scénaristes, les meilleurs réalisateurs, de grands acteurs considèrent que ce n'est pas choquant, que c'est devenu un genre noble. En 2001, vous avez une grande exposition au MoMA consacrée à la série Les Sopranos. Et le temps du monde, c'est... le 11 septembre, c'est l'idée que les relations internationales, dans leurs dimensions les plus tragiques, viennent à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à elles. Et donc cette rencontre entre une révolution au niveau des séries et une thématique, vous ne pouvez pas, dans vos séries, ne pas traiter de la géopolitique, m'a conduit à ce livre, qui est basé, je crois, sur... une intuition. C'est-à-dire que les séries ne sont pas seulement un sujet en ville, pour un dîner en ville, quelle série regardes-tu, je te dirai qui tu es, mais elles sont un véritable révélateur, miroir de notre monde, et en réalité, il y a une interaction entre fiction et réalité. Quand Benjamin Netanyahu utilise une formule sortie de Game of Thrones pour convaincre le Congrès des États-Unis de la justesse de ses thèses, un jeu de trône mortel est en train d'exister sous nos yeux entre l'Iran des ayatollahs et le Daesh, vous êtes pleinement dans cette interaction, et à un moment donné, quand je regardais Game of Thrones, je me demandais si en réalité cette fiction n'avait pas été une source d'inspiration pour les terroristes de Daesh dans leurs exécutions, dans leurs décapitations. Et il disait, il montrait le visage de la prochaine victime, comme à la fin d'un épisode, on annonce la prochaine décapitation. Et est-ce que nous ne sommes pas dans la saison 5 de la guerre en Syrie, comme on peut être dans la saison 5 de Game of Thrones, avec un seul vainqueur dans la série, comme dans la réalité, la mort?
Dominique Moisy, ça c'est sur les thématiques effectivement qui apparaissent, qui est très intéressant dans votre livre. Il y a aussi quand même au fond la temporalité de la série elle-même. Vous avez parlé de temporalité qui se rejoignait. Est-ce que le fait que ces séries, par définition, sont sur un autre mode temporel qu'une œuvre d'art de la même du même acabit, à savoir un film par exemple, est-ce que là il n'y a pas aussi une manière de vivre le monde qui est différente aujourd'hui relativement au temps? Et relativement à la linéarité du temps, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de rester dans un endroit longtemps?
C'est-à-dire, dans un film, on fait connaissance avec des héros qui, en général, sont peu nombreux. Dans une série, on fréquente des héros qui sont le plus souvent très nombreux. Et en réalité, le film, ça correspond à la bipolarité de la guerre froide. Vous avez deux héros principaux. La série, ça correspond au monde apolaire ou multipolaire de l'après-guerre froide. Vous avez le temps de fréquenter un très grand nombre d'acteurs et au bout d'un certain temps, vous ne savez plus qui fait quoi, mais vous savez encore qui est qui.
Dominique Moisy, nous avons justement proposé à quelqu'un qui connaît à la fois bien le cinéma et les fictions. On aurait pu choisir quelqu'un qui est plutôt dans votre domaine, la géopolitique, mais il nous a semblé plus intéressant d'inviter à lire votre livre quelqu'un qui connaît très très bien les séries. C'est Emmanuel Burdeau aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Burdeau qui est critique de cinéma, qui a été le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, qui est aujourd'hui membre de la rédaction de Mediapart. Vous animez, Emmanuel Burdeau, le Café en revue, un site internet du Café des Images, et vous avez écrit et ou dirigé un certain nombre de livres consacrés aux séries, The Wire par exemple, ou Les Sopranos, ou encore Breaking Bad. Vous avez lu donc La géopolitique des séries de Dominique Moisy.
Oui, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et vous parlez à plusieurs reprises dans le livre, et vous venez de le faire, du rapport entre le temps des séries et le temps du monde. J'aime beaucoup cette formule. Moi, j'y ajouterais un troisième terme, si je peux me permettre, qui est le temps de la critique, enfin le temps du discours critique. Et dans le livre, au début, vous prenez acte du fait que les séries sont devenues omniprésentes, et que dans les conversations, j'en fais moi-même l'expérience presque quotidiennement, la chose qui revient presque le plus facilement, en tout cas beaucoup plus que les films, c'est quelle est la dernière série que tu as vue, etc. Et en même temps, on est dans un moment où je pense que le constat de l'importance des séries est fait. On le réitère, mais il est fait. En revanche, c'est vrai que l'actualité, l'activité ou l'actualité éditoriale ou critique, à mon avis, accuse encore un certain retard. La plupart des discours qui accompagnent les séries, d'une façon générale, sont plutôt des discours de type encore guide ou mode d'emploi. Il faut dire qu'il y a tellement de séries que c'est normal de vouloir y faire le tri et qu'on tarde un peu à quand même à les prendre véritablement au sérieux. Je pense que votre livre y contribue. Vous dites vous-même que vous n'êtes pas un spécialiste. Alors moi, je ne sais même pas qui aujourd'hui pourrait être spécialiste des séries, parce qu'il y en a un tel nombre que c'est vraiment vertigineux. D'ailleurs, il semblerait que ce soit que pour la première fois aujourd'hui, la réflexion sur le fait qu'il y a peut-être trop de séries commence à faire son chemin. C'est une réflexion qui existe depuis longtemps d'ailleurs en France, en particulier sur le cinéma.
Trop de séries par rapport à quoi ?
Trop de séries par rapport à peut-être aux capacités d'absorption, disons, du marché, trop de séries pour les spectateurs, trop de séries pour qu'on en rende compte. Enfin, c'est des choses qu'on voit, des questions qu'on voit apparaître. On se dit peut-être que cette année 2016 va être l'année qui, d'une certaine manière, va marquer une sorte de pic, quoi. Et qu'après, peut-être on redescendra. Mais je faisais juste cette remarque pour dire à combien vous avez eu raison de restreindre votre corpus, même si vous m'avez donné des sueurs froides. Je pense que je suis pas le seul, parce que je regarde le sommaire de votre livre. Je vois donc Game of Thrones, ok, Downton Abbey, Homeland, ça va, House of Cards, Occupied, dont je n'ai vu qu'une partie, puis Balance of Power. Et là, je me dis, je suis mal. Parce que je n'ai pas vu Balance of Power, et ça a l'air bien. En voyant ce titre comme ça, heureusement, si je puis dire, et c'est le chapitre que je préfère, mais je pense que tout le monde sera à peu près dans mon cas, c'est une série que vous inventez, que vous allez, je
sais pas qu'elle va se faire,
qui est une, vous imaginez une série, à partir de quelque chose qui, peut-être me permet de vous poser une question, si je peux.
Parce que vous êtes bien là pour ça.
Dans cette, vous essayez d'une certaine manière d'imaginer une sorte de contre-proposition à la noirceur de Homeland et de Game of Thrones en particulier. Donc d'imaginer une série qui traiterait de géopolitique directement. Bon, en l'occurrence avec un personnage américain, diplomate américain, enfin d'espion américain et un personnage d'espionne chinoise. Et donc vous reconduisez, si je puis dire, c'est de la bipolarité dont vous parliez tout à l'heure, même si elle n'a pas du tout la même forme que sous la guerre froide, ça vous en parlez à de très nombreuses reprises et très bien. Et là, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément, sur lequel vous vous attardez à plusieurs moments, enfin, que vous mentionnez à plusieurs moments sans vous y attarder, il me semble, c'est ce que vous appelez les deux mondes. Moi, ça m'intéresse énormément dans les séries, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre là-dessus. Par exemple, dans Downton Abbey, il y a en bas, en haut, les maîtres et les valets, ici l'Amérique et la Chine. Homeland, c'est pareil aussi.
Et puis le passage d'un monde ancien à un monde nouveau.
Le passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Qu'est-ce que vous inspire, si je puis dire, cette division qui semble être vraiment une des constantes des récits dans les séries aujourd'hui?
Dominique Moisy.
Bon, dans la géopolitique de l'émotion, j'avais conclu mon ouvrage par un exercice de futurologie. En disant, voilà ce que sera le monde, ce que peut être le monde en 2025. Et j'avais opposé le meilleur des mondes possibles au pire des mondes possibles, en disant, vous avez quand même la possibilité, en tant que citoyen, d'œuvrer au moins mauvais des mondes possibles. Et ça avait frappé les lecteurs et mon éditeur chez Stock, Manuel Carcassonne, m'a dit, mais vous devriez refaire la même chose dans la géopolitique des séries, inventer une série. Alors j'étais très réticent au début, quand même. Déjà me lancer en tant que géopoliticien dans le monde des séries, c'était dur pour ma réputation académique, mais en plus, inventer une série...
Ça va peut-être vous rapporter plus de revenus.
C'était vraiment osé. Mais j'avais la même volonté pédagogique. De dire à un public très large, qui ne connaît pas nécessairement la géopolitique, mais qui connaît le monde des séries, vous savez, il y a de l'espoir encore. On peut inventer un monde avec des héros positifs, avec une vision de l'ordre. Et cet ordre, je le cherche dans un mot clé, qui est celui de respect. Le respect de l'autre. C'est la rencontre de la différence de l'autre. Mais, au fond, c'est quelque chose qui m'obsède depuis des décennies. Quand les civilisations se sont-elles rencontrées comme des égales? Et dans le choix de mes héros, le colonel Lou, que je décris comme une ravissante espionne chinoise, avec les yeux en amande et la peau de porcelaine, et mon héros américain, le Major Adams, qui est un mélange entre Pierce Brosnan et, je ne sais pas, il y a une connaissance de l'autre. La chinoise est passée à l'université d'Harvard, elle apprécie l'Amérique. Mais l'Américain a eu un grand-père, ou un arrière-grand-père, qui était pasteur en Chine et qui respecte ce pays et sa civilisation. Et donc je base ma série sur la rivalité, la compétition, mais aussi l'attraction intellectuelle et physique, bien évidemment, entre deux cultures qui sont centrales pour l'avenir de notre planète. Et j'essaye de dire, au-delà du chaos, il peut y avoir un principe d'ordre.
Mais c'est là que vous avez très bien compris le mécanisme des séries. Pour reprendre la question d'Emmanuel Burdeau, il y a toujours deux mondes, soi et l'autre, un ancien monde, un nouveau monde. Mais c'est cette raison-là, Dominique Moisy, qui vous a poussé à travailler sur la notion de respect ?
Non, la notion de respect, elle me paraît fondamentale, elle est liée même à mon histoire. Je suis fils d'un survivant d'Auschwitz. J'ai consacré un livre, Un juif improbable, une éducation européenne, à mon histoire en partie et aux leçons globales que j'en tirais. Donc, en réalité, entre mes trois derniers livres, je crois qu'il y a une grande continuité. Dans un premier ouvrage, j'essaye d'élargir le champ des relations internationales, en disant vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'intégrez pas l'affectif. Dans un second livre, beaucoup plus personnel, je dis voilà pourquoi moi je suis devenu européen et pourquoi je ne comprends pas que vous abandonniez si vite, si rapidement ce projet qui était noble et qui est toujours incontournable. Et dans la géopolitique des séries, j'essaye de faire autre chose, qui consiste, parce que le monde est beaucoup plus grave qu'il n'a jamais été, parce que les menaces montent. Mais j'essaye de dire à un public donc beaucoup plus vaste, qui se passionne pour les séries, vous devriez vous intéresser à la géopolitique. Et je vais essayer de rendre votre intérêt plus facile par une démarche en apparence plus légère, mais qui est en réalité, je l'espère, sérieuse dans sa thématique et profonde dans la recherche de ses thèmes.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Avec Dominique Moisy aujourd'hui, auteur de La géopolitique des séries, un livre qui paraît aux éditions Stock, et pour l'interroger à nos côtés aujourd'hui, le critique de cinéma Emmanuel Burdeau, qui connaît particulièrement bien les séries également. Dominique Moisy, dans cette idée qu'il y a toujours dans les séries et peut-être aussi dans le monde toujours ce rapport entre fiction et réalité, deux mondes qui s'opposent ou deux mondes qui se respectent, pour reprendre votre mot, qui se complètent l'un et l'autre. On aurait tendance à penser que votre choix va plutôt vers le deuxième, vers la rencontre de l'autre, et que vous écrivez ce balance of power, cette invention d'une série qui cherche à comprendre le monde qui vient, en ayant ça en tête. Et pourtant, votre géopolitique des séries est sous-titrée « Le triomphe de la peur ». La peur, c'était l'une des émotions que vous aviez cartographiées dans la géopolitique de l'émotion. Pourquoi le triomphe de la peur aujourd'hui, à partir de votre regard sur les séries ?
Parce que je trouve comme une archéologie des peurs. Dans Game of Thrones, vous avez la peur du chaos et du retour de la barbarie. « Winter is coming ». L'hiver approche. Mais en réalité, l'hiver s'est déjà installé. Le 13 novembre 2015 à Paris, c'est la confirmation de l'installation de l'hiver. Downton Abbey, qui en apparence est plus optimiste, plus positive, est une série très tocquevillienne sur le passage d'un ordre social à un autre. Au fond, Game of Thrones, c'est Hobbes, au temps des dragons. Game of Thrones, Downton Abbey, c'est vraiment une réflexion à la démocratie en Amérique. Vous avez un ordre social qui, sous l'impact de la Première Guerre mondiale, est en train de s'effondrer. Comme le Titanic, qui coule dans les eaux glacées et qui ouvre la série Downton Abbey. Homeland, c'est la peur du terrorisme, mais c'est aussi une peur identitaire. Qui suis-je ? Avec une bipolarité qui traduit la réalité psychologique d'un héros principal, cette espionne de la CIA. Et je trouve extraordinaire qu'on soit passé de la bipolarité au sens géopolitique du terme à la bipolarité de l'héroïne au sens clinique du terme. Ça, c'est vraiment un révélateur de l'impact du 11 septembre. Puis vous avez House of Cards qui traduit la peur de la fin de la démocratie, la fin du rêve américain. On est passé avec West Wing, qui était la description cornélienne, le monde tel qu'il devrait être, du meilleur président possible, à une description à la Racine, le monde tel qu'il est, Racine, l'auteur de Phèdre, et le regard porté sur la politique américaine, sur le président des États-Unis, sur le couple qu'il forme avec son épouse, est une clé indispensable si l'on veut comprendre le succès des populistes comme Donald Trump ou Cruz aux États-Unis et les difficultés de Hillary Clinton à s'imposer comme la candidate du Parti démocrate. Et puis il y a une série que j'ai découverte qui s'appelle Occupied, qui est un petit chef-d'œuvre sur le plan du traitement de la géopolitique, qui est une série norvégienne.
Diffusée sur Arte.
Elle a été diffusée la première saison sur Arte, et on a l'impression que le thème, c'est l'écologie. En réalité, ce n'est pas la peur de ce que l'homme peut faire à la nature, mais de ce que des hommes peuvent faire à d'autres hommes, et c'est le retour de la menace russe. Et en réalité, c'est la confirmation du succès de Poutine. Il a réussi à nous faire peur à nouveau. Et donc, il y a cette accumulation de peur que je décris, et c'est pour ça qu'à la fin, je crée une autre série qui revienne un peu à l'esprit positif de West Wing, où je me tourne vers le critique cinématographique que vous êtes, les films de Frank Capra dans les années 40.
Emmanuel Burdeau.
Oui, c'est en vous entendant, en lisant votre livre, j'ai envie de faire plusieurs remarques. D'une part, moi j'entends évidemment aussi le mot géopolitique. Je vois dans votre livre aussi quelque chose qui a à voir pour moi avec la géopolitique des images. C'est-à-dire que si les séries aujourd'hui sont si importantes dans le monde entier, et si on peut, et si les rapports qu'elles entretiennent avec l'actualité politique sont si fins et mêlés, c'est aussi parce que, mais c'est une discussion dans laquelle vous n'entrez pas, ce que je comprends, c'est aussi parce que leur mode de diffusion et donc de consommation, disons, est quelque chose de profondément nouveau. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement de quelle manière est-ce que Downton Abbey va pénétrer jusque dans la campagne chinoise, parce que vous parlez à plusieurs reprises de l'Asie. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que c'est par des moyens qui ne sont pas simplement ceux de la diffusion télévisuelle à horaire fixe et avec une régularité hebdomadaire. C'est-à-dire que là aussi, il y a une sorte de multipolarité que moi, je trouve extrêmement intéressante comme critique de cinéma, c'est-à-dire qui le rapport aux œuvres. Il y a aussi une sorte de fin de la bipolarité ou de fin des polarités dans le rapport aux hommes.
Mais d'ailleurs, vous êtes, Dominique Moisy, intéressé à des séries qui sont exportables ou qui ont été exportées dans le choix, les critères de choix des séries, puisqu'il n'y a pas toutes les séries, encore une fois là. Trois américaines, une britannique et une norvégienne. Bon, domination américaine quand même malgré tout, donc une vision des auteurs américains, peut-être qu'on peut trouver que c'est une vision subjective. Toujours est-il que vous vous êtes intéressé à ces séries-là qui s'exportent, parce que des séries brésiliennes, des séries, vous le dites ça, hein, que vous auriez pu regarder ça, parce que c'est un phénomène de la mondialisation, mais Game of Thrones est arrivé jusqu'en Chine, House of Cards en particulier, parce qu'il l'aime particulièrement, Dominique Moisy. Et puis je vais vous redonner la parole, Emmanuel Burdeau, ensuite.
Alors, deux choses. La première, sur la géopolitique des images. Je crois que vous avez tout à fait raison. Mon livre s'inscrit dans cette réflexion. Et une des thématiques qui m'a fasciné, c'est le passage de la sacralisation par l'image à la désacralisation par l'image. Au fond, dans les tableaux religieux, Fra Angelico, dans les tableaux de plus en plus nationalistes. David, le sacre de Napoléon, Menzel, le sacre de Guillaume Ier, vous avez une sacralisation par l'image. Et à travers ces séries, comme en particulier House of Cards, vous avez une désacralisation par l'image qui évoque Daumier, les caricaturistes du XVIIIe siècle anglais, Gilray. Et donc, c'est tout à fait dans cette réflexion que je me suis inscrit moi-même. Alors, pour ce qui est du rôle des États-Unis, ce qui m'a fasciné, c'est le divorce de plus en plus grand entre l'hard power, le pouvoir de contraindre des États-Unis, qui s'est affaibli incontestablement au cours des 10 dernières années, et le soft power, le pouvoir de convaincre, de séduire. Au fond, l'Amérique traite de ses faiblesses, exporte ses séries, et elle envahit l'imaginaire du monde au moment où elle n'envahit plus, Dieu merci, d'autres pays. Comme si il s'était fait une sorte de divorce entre ces deux réalités. On n'a jamais autant parler de l'Amérique. Et quand je suis en Chine, ça m'a un voyage que j'ai fait l'année dernière m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de mon livre. Je vois que les Chinois en général regardent des séries sud-coréennes, comme des Africains regardent des séries brésiliennes, comme des Moyen-Orientaux regardent des séries turques. Mais leur thématique, c'est plutôt le soap opera, la sentimentalité légère. Alors que les élites chinoises, elles regardent avec fascination House of Cards, avec l'idée que, en réalité, le régime politique chinois et le régime politique américain, au-delà des termes démocratie ou pas démocratie, au fond, c'est la même chose. Quand on est au pouvoir, on se comporte de la même manière. Et le cynisme de la série ravit les élites chinoises.
Emmanuel Burdeau, je vous ai interrompu, pardon.
Non, il y avait deux petites choses, enfin deux réflexions que votre livre m'invite. D'une part, ce que vous dites quand vous parlez du temps des séries, vous parlez d'une sorte de course-poursuite entre les fictions des séries et l'actualité politique. Mais vous évoquez aussi quelque chose qui me semble très important, et dont Antoine parlait tout à l'heure, c'est le fait que la longue durée des séries finit par installer ce que vous appelez une impression de temps réel et finit par donner l'impression qu'on est le contemporain, non pas d'une fiction, mais de quelque chose qu'on pourrait appeler une vie. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important et que ça permet peut-être de comprendre comment est-ce que les séries... C'est une manière de comprendre pourquoi les séries sont toujours construites avec deux mondes qui sont comme, disons, l'un est la surface, l'autre est la profondeur. Disons, Downton Abbey, en surface les maîtres, en profondeur les valets. On pourrait presque dire en surface la réalité, en profondeur la fiction, ou l'inverse. Et les séries, par leur durée, le fait que ce soit à la fois des œuvres de longue durée, mais qui est une longue durée découpée en petits morceaux, sont elles-mêmes comme une sorte de morceaux de fiction qui, mis bout à bout, finissent par constituer une impression de continuité, une impression de vérité. C'est toujours ce qui m'a frappé dans les séries, c'est leur capacité, pour prendre une série que vous évoquez aussi, et que moi j'aime beaucoup, qui est The American, c'est leur capacité à finir par donner apparence de vraisemblance à des hypothèses a priori farfelues. Ici, il s'agit de nous expliquer que deux espions dormants venus du KGB sont, pour les besoins de leur travail, mais aussi d'une certaine manière, à force, par conviction, en tout cas par goût, sont devenus une famille américaine, plus américaine que les autres, dites-vous. Et donc sans cesse, la série va nous dire « les vrais Américains, ce sont eux », et puis... par une sorte de basculement, on va lui dire « Non, eux, ce ne sont pas les vrais Américains, ce sont des Soviétiques. » Et ça, c'est cette sorte de jeu de volte-face que la longue durée permet plus facilement et qui, je pense, est quelque chose qui parle spécialement aux spectateurs et en tout cas aux téléspectateurs, qui leur parle à l'endroit où ils voient les séries. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on voit dans un environnement, disons, intime.
Dominique Moisy.
Tout à fait. Je crois le personnage du butler, Carson, dans Downton Abbey, il est plus royaliste que le roi. C'est lui qui rejette le plus la transformation du monde. Mais le temps des séries, je crois que oui, les personnages des séries, on ne fait pas seulement leur connaissance, on va les fréquenter pendant très longtemps. Et on va se passionner pour leur vie, on se réjouit quand on a des raisons de se réjouir, et on est accablé quand ils disparaissent.
Et vous dites, pardon, de façon très intéressante, qu'il n'y a peut-être pas de personnages secondaires dans les séries.
Oui, je crois que c'est le cas. Enfin, dans Downton Abbey, le héros masculin, c'est le butler, et le héros féminin, c'est Lady Violette. Interprété par Maggie Smith.
Ni Engrenage, ni Un village français, ni aucune série française, Dominique Moisy ne pouvait faire l'objet d'un chapitre. Vous en parlez, elles sont évoquées, vous les avez vues. Mais pas au point de faire un chapitre sur la géopolitique du monde.
Alors, Engrenage, j'ai longuement hésité. J'ai d'ailleurs commencé à écrire un chapitre sur Engrenage. Parce que la saison 5 en particulier est incroyablement prophétique. Vous avez le sentiment, quand vous la regardez, que ce qui se passe en 2015, entre janvier 2015 et novembre 2015, est déjà en filigrane dans cette saison. Mais ce qui m'a retenu, c'est qu'en réalité, même si elle a été beaucoup plus que d'autres séries françaises distribuées à l'étranger, elle n'est pas un phénomène de mondialisation. Et elle ne traite pas directement de géopolitique.
C'est ce qui a été l'un des critères de vos choix de série. Antoine Mercier.
Oui, j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi, dans ce que vous dites sur le cynisme, la perversité, la violence, le fait que l'on regarde ça sur la longue durée, que ça devienne une sorte de seconde vue, une possibilité d'entrer dans un autre monde sur le mode existentiel. Une question sur le rapport entre la possibilité que nous avons d'agir dans notre temps sur la réalité et le fait de s'engouffrer dans des séries où on voit précisément que les choses sont déjà ordonnées, qu'il y a les deux camps et puis tout ça, il n'y a pas vraiment de nouveau qui peut se produire. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui peut apparaître. D'où votre série Balance of Power. Comment vous allez-vous pouvoir terminer de manière optimiste qui serait la fin finalement de la série elle-même.
L'espoir que la fiction ne se contente pas de refléter le monde, mais nous emmène ailleurs, quoi.
Oui, oui. Non, le problème, c'est que, bon, en tant que moraliste, je suis profondément choqué du fait que on s'indigne de la violence que l'on voit dans Game of Thrones, mais on ferme les yeux sur la violence réelle que l'on voit en Syrie. C'est pour ça que je parle de manière volontairement provocatrice de la saison 5 de la guerre en Syrie. Et voulant terminer mon livre par une note d'espoir, parce que je reste fondamentalement positif après avoir étudié le triomphe de la peur, je dis, mais vous savez, il vous appartient quand même de recréer un système d'ordre. Le chaos n'est pas inévitable.
D'où ce choix pour terminer, Dominique Moisy, de Land of Hope and Glory. Très bonne illustration musicale de Downton Abbey qui a quand même vos faveurs. Enregistrement 1930, Dominique Moisy. Merci beaucoup d'être venu à la grande table avec cette géopolitique des séries ou le triomphe de la peur qui paraît aux éditions Stock. Merci à vous, Emmanuel Burdeau, d'être venu. Je veux juste annoncer un séminaire que vous allez diriger d'ici un petit mois. Ça commencera le 18 mars et c'est jusqu'au 22 avril. Peut-être que Dominique Moisy aura le temps d'y participer, en tous les cas d'y assister. Ça sera au Jeu de Paume à Paris et c'est un forum, séminaire plus exactement, sur les séries, formes et formats de la série télévisée contemporaine. Merci à tous les deux et merci à toute l'équipe de La Grande Table, Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin et la prise de son aujourd'hui, c'était Tristan Gratalon.